me souffle comme ça pendant que vous n'entendez rien, mais je crois qu'on va le dire très ouvertement, qu'il a quelque chose à dire à propos des femmes. Alors c'était quoi? Parce que, bon, on veut dire que sur scène, il y a trois hommes, une femme, c'est Heidi, et puis que cette femme, on a souvent la sensation qu'elle parle toute seule, qu'on ne lui apporte pas beaucoup d'attention. Est-ce à dire que M. Beckett n'accordait pas beaucoup d'importance aux femmes, ou est-ce qu'il mélangeait hommes et femmes? C'était un peu la même chose?
Oui, à la fin, dans un des textes, à la fin, il dit « pour moi, c'est la même chose ». Pourtant, il a écrit, tout ce qu'il a écrit pour les femmes était très, très particulier. Et dans les derniers textes, ce qui a rendu la tâche très difficile pour Heidi, justement, c'est que c'était la femme, elle n'avait pas de corps. Elle était absente physiquement, on l'entendait. C'était souvent une bouche, par exemple.
Je ne connais que Où les beaux jours, mais elle est enterrée dans la terre.
Voilà,
tout
déjà,
spectacle.
C'est le début de justement une démarche qu'il va suivre après, et où la femme, elle, à la fin, n'est qu'une voix. Une voix dans la tête d'un homme, ou alors des pas. Mais c'est surtout, elle est très liée à la parole. Ça, bon, c'est très intéressant, mais ça représentait un gros travail, une grosse difficulté pour Heidi qui voulait trouver un personnage de chair comme les autres. Mm-hmm. Ça, c'est très important. C'est dommage qu'elle ne soit pas là, parce que je pense qu'elle aurait été très contente de parler de ça. Mais comme tout à l'heure, tu demandais sur le rôle de ces femmes qui m'accompagnent ici autour de moi dans un travail où il y a aussi des hommes et qui font des fonctions, qui ont des tâches que parfois on peut penser qu'elles sont plus importantes ou plus agréables. Alors moi, je crois qu'on est... notre travail est exemplaire dans ce sens, parce que le travail qu'on fait avec Heidi, donc un travail de co-direction, est vraiment quelque chose de très fort, où l'échange, je pense que je ne pourrais pas exister sans tout le travail qu'elle fait, et comme tant son travail, sans ce que moi je lui apporte, serait aussi très différent. Donc il y a vraiment un travail de co-direction. D'ailleurs, les gens pensent souvent que c'est moi qui a fait la mise en scène, que c'est moi, c'est à moi qu'on vient faire les reproches ou qui on vient féliciter. Je pense qu'elle souffre encore beaucoup de justement de ça, parce qu'on pense qu'une femme metteur en scène, s'il y a un homme aussi à côté, si c'est le frère aîné en plus, elle n'a pas la place. C'est pas elle qui a fait. Et ça, je tiens à préciser, parce que vraiment, je pense que ce spectacle et tous les spectacles qu'on fait, tout le travail qu'on fait, ne peut avoir lieu que justement dans ce dialogue et cette réciprocité du travail. Et là, une dimension dans la lecture et une dimension dans la création que j'ai pas du tout, et qui se confronte très bien à mon regard et à ma dimension dans le travail. Donc ça, c'est très agréable, et je pense que c'est rare aussi d'avoir une telle... En plus, parce qu'on est frères et sœurs. Donc aussi.
Ça, c'est une situation bien particulière.
Oui.
C'est une connivence immense de travailler entre frères et sœurs.
Oui, oui. Ça donne une dimension très intéressante. En plus, parce qu'au niveau du travail, je crois qu'on peut, séparer. Il y a des plans très clairs et très nets de rapport. Et quand on est dans le travail, c'est le travail par-dessus tout. Bon, quand on s'engueule, à la fin, on dirait qu'ils sont frères et sœurs, parce qu'on ne peut pas s'engueuler autrement qu'entre frères et sœurs. Mais il y a vraiment quelque chose de très fort au niveau du travail. Et ça, je tenais à le dire, puisqu'on parle de ça ici.
C'est bien que tu fasses référence à cela. Je crois que c'est important. On peut peut-être mentionner aussi pour nos auditrices et nos auditeurs une aventure particulière quand même qui vous est arrivée dans la préparation de ce spectacle. C'est que tu as pu rencontrer Samuel Beckett juste avant sa mort. Et ça, c'était une chose importante pour toi. Tu as fait le voyage exprès depuis Bogota jusqu'à Paris, ou en France, je ne sais pas où tu l'as rencontré. C'était une chose importante pour toi, pour vous, de le rencontrer?
Oui, c'était très important, surtout parce que la création de De Mortibus s'est faite dans un moment très particulier de l'histoire de la Colombie. C'est un moment où la narco-guérilla a déclaré vraiment la guerre au gouvernement, et le gouvernement a décidé de l'affronter. Et la partie civile, donc la population civile, était vraiment le camp de feu entre ces deux grands rivaux, l'État et la drogue. Et c'est la population civile, en fait, qui a souffert et qui a vécu en chair. Tous ces échanges meurtrières et qui se passaient donc tous les jours et à toutes les heures dans les grandes villes de Colombie il y a 2 ans, où il y avait des attentats à la bombe continuellement, des sabotages, il y avait des pétards, enfin il y avait toutes sortes d'événements terroristes très importants qui ont fait que, bon, je pense que ça marque aussi... beaucoup de gens ont arrêté de travailler, par exemple. Il y avait sans cesse l'armée qui venait débarquer partout. Tout le monde était suspect dans la population civile. Tout le monde portait des armes. C'était très tendu. Et nous nous sommes un peu réfugiés dans un lieu où on répétait. De toute façon, bon, non, c'était très tendu, le travail était très tendu, et nous voulions quand même le finir. Et on a cherché, donc à côté de ça, dans le travail, à savoir ce que Beckett pourrait penser ou imaginer de ce qu'on était en train de faire. On s'est dit, est-ce qu'on est peut-être en train de morceler complètement une œuvre qui est pas du tout, qui se prête pas du tout à ça? Est-ce qu'on a voulu faire un hommage, mais au contraire, ce qu'on est en train de faire, c'est destruction totale d'une œuvre. Enfin, on avait beaucoup d'inquiétudes comme ça, et en même temps un besoin de sortir un peu, prendre de l'air. On a eu la chance d'être invité en Europe, et dans quelques semaines, grâce à la médiation de l'éditeur Jérôme Lindon, à qui on avait écrit et qui nous avait déjà raconté les nombreuses demandes qu'il y avait pour rencontrer Beckett de la part de partout, de gens qui voulaient l'interviewer, etc. Et qui nous avait déjà dit que c'était impossible. Je pense que, justement à cause de cette situation qu'on était en train de vivre en Colombie, Beckett a accepté de nous voir exceptionnellement. Il était malade, ce qui a un peu rendu les choses difficiles. J'ai dû attendre quelques semaines. Heidi, justement, elle a un peu renoncé, elle s'est dit ça va être impossible. Elle est repartie en Colombie et je suis resté ici un peu en me disant non, je suis sûr qu'on peut le voir. Et oui, finalement, oui, il était rentré de l'hôpital et il allait un peu mieux. Et j'ai pu le voir. Donc, dans sa dernière demeure à Paris, il était dans une maison de retraite quelconque du 13e arrondissement, à côté d'autres personnes âgées très solitaires, dans une maison très simple, vraiment avec des tapisseries, des papiers peints très jaunis et des vieux meubles. Un peu de tout genre, une moquette un peu jaune, comme ça.
Un vrai univers beckettien.
Oui, alors. C'était... Moi, j'avais... Dès que je suis entré dans cette maison, j'ai dit, ça y est, j'étais dans une des pièces de Beckett, une des premières pièces, Malone meurt, où le personnage, qui est une personne âgée, est dans son lit et parle un peu de ces personnes, et se voit mourir, et voit mourir autour un peu les autres. C'était vraiment la rencontre entre l'auteur et son œuvre que de rentrer dans cette maison. Et donc, non, c'était très impressionnant, c'était très très fort. Et on a parlé de beaucoup de choses, mais on a peu parlé de son œuvre, de notre travail, parce qu'il me disait qu'il était déjà au-delà de son œuvre, il ne voulait plus en parler. Et il était très intrigué. Fait qu'on travaille sur son œuvre en Colombie à ce moment-là. Justement, il était tout à fait au courant, il était très lucide. Il savait très bien, d'ailleurs, quand je suis rentré, il était en train de lire le journal et il apprenait la mort d'un candidat à la présidence qui avait été assassiné ces jours-là. Et je pense que ça l'intriguait beaucoup. Et je lui expliquais donc le rapport qu'il y avait si fort entre son univers et puis justement ce qu'on pouvait vivre dans une ville comme Bogota à ce moment-là. Et sinon, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que la première chose qu'il m'a dit, mais Bogota, où il n'avait jamais été, est bien 2660 mètres, n'est-ce pas? Cette précision peut indique déjà donc, non seulement la lucidité, mais un peu le regard qu'il avait sur les choses du monde, n'est-ce pas? C'était très étonnant. Et ouais, ça a été très, très fort et très encourageant pour terminer le spectacle.
Tu l'as dit à plusieurs reprises maintenant, Rolf, que cet univers de Beckett est quelque part très lié à la situation que vous viviez à ce moment-là en Colombie. Si on peut donner quelques images de votre spectacle pour que nos auditrices et nos auditeurs essayent de se faire une idée. Et puis peut-être après, si tu peux redire comment ce spectacle a été reçu, parce que justement, toi, tu as l'impression que ça colle très bien à ce que vous viviez en Colombie, mais finalement, comment les gens l'ont reçu. Alors, peut-être pour camper le décor, on peut dire que on se trouve dans un décor, on a l'impression d'être un peu dans une rue bouchée, comment pourrait-on dire, hein, dans un cul-de-sac. Oui. Il y a quatre personnages vêtus de costumes empoussiérés, peut-être de la boue. Il pleut par moments pendant le spectacle, tout est gris. Et puis il y a des silences, il y a des paroles échangées en français, c'est Heidi et toi. En espagnol, en anglais, c'est les deux autres comédiens du spectacle. Ça, c'est une version spéciale pour l'Europe. C'était oui. Tout en espagnol, j'imagine,
oui.
En Colombie. Et puis, il y a à la fois cette solitude qui est très caractéristique du monde beckettien, des rencontres étranges. Des fois, on se parle, des fois, les mots se croisent tout simplement. Ils se superposent par moments aussi. On a l'impression que les personnages ne font pas attention à eux-mêmes. On ne sait pas très bien qui ils sont. On pourrait, comme vous l'avez fait, donner des chiffres et des lettres, M1, M2, M3, M4. C'est quelqu'un, c'est quatre personnes, c'est une seule personne. On ne sait pas très bien. Et puis, il y a effectivement, de temps à autre, comme tu l'as dit tout à l'heure, ces couleurs qui apparaissent. Certains qui connaissent bien le monde beckettien y retrouvent certains personnages. D'autres, peut-être, sont simplement attirés par, tout à coup, la tache rouge de la rose, la tache jaune de la banane, sans savoir à quoi cela se réfère dans le monde beckettien, dans les pièces de Beckett. Et puis, il y a, intercalé dans les silences, la musique, dont on a l'impression qu'elle sert vraiment de mesure en face des silences. Et puis, toutes sortes d'objets, les valises qui ont l'air de peser très lourd avec des gens qui partent, qui viennent, qui reviennent, on ne sait pas très bien, qui tournent peut-être en rond. Et comment toute cette atmosphère te fait penser alors à l'atmosphère de la Colombie? Pourquoi les gens se retrouvent, à ton avis, si bien dans une atmosphère comme celui-là? Et si je l'ai mal décrit, évidemment, complète-la.
Oui, je pense que dans un monde où on est très confronté à une comment appeler ça, corporéité toujours présente, où la dimension physique est très forte, n'est-ce pas? C'est-à-dire que justement ce que je racontais, la terreur et la violence se vit d'abord physiquement, c'est-à-dire il y a on se protège physiquement, on agresse physiquement, c'est ce qu'on montre à les images, c'est toujours c'est des corps blessés. Mais derrière tout ça, il y a justement au moment où il y a un silence, il y a une dimension qui est là mais qui ne se voit pas. Et c'est ce que Beckett a pour moi trouvé dans la dimension humaine, c'est un peu ce cul-de-sac de l'existence humaine, ce va-et-vient de notre pensée et de notre toute notre champ d'émotions, ces allées sans retour, ces retours sans allées, ces rencontres sans rencontres, vraiment ces échanges qui ne sont pas partagés, ces solitudes finalement qui existent partout, mais que je trouve dans la place publique, dans le parc de ces grandes villes où le ciment et le béton est très présent, où il y a une pluie aussi incessante, je pense que derrière tout ce monde physique, il y a, Beckett a trouvé une dimension métaphysique très très forte.
Universel.
Oui, absolument.
Parce que c'est vrai, quand on pense aux villes européennes, où, c'est sûr, ça colle éminemment bien, et la solitude des gens dans les mondes industrialisés, on la connaît un petit peu. Mais souvent, quand on pense à l'Amérique du Sud, bon, je ne connais pas Bogota personnellement, mais c'est plutôt les couleurs, c'est plutôt la musique très vivante. Et même, on dit, ces pays sont très pauvres, et pourtant, ils chantent toujours, ils dansent toujours. Enfin, ça, c'est des images, hein, clichés que l'on donne toujours. Alors, comment les gens peuvent se retrouver dans un monde aussi gris, dans un monde aussi peu communicatif qu'est celui,
oui,
de Beckett?
Moi, je pense que Beckett a choisi, par exemple, le gris comme une métaphore. C'est le gris, là-bas, c'est un état d'esprit. On ne voit jamais du gris. Mais le gris est un état d'esprit de ces grandes... un état d'esprit urbain. Et bon, il y a beaucoup de couleurs, les gens chantent, c'est très gai. Mais il y a des moments comme ça, comme lorsqu'on a vécu donc, cette période de guerre où moi je lisais dans la ville cette dimension grise qui est justement celle de la condition humaine au-delà des couleurs et des musiques et des... pas de tous ces signes typiques de cette autre culture. Et là, je la voyais très proche de toutes les... J'imaginais... on travaillait beaucoup sur des images, donc des images réelles qu'on avait autour de nous, mais aussi, bon, on avait les images des guerres du Liban, après de l'Irak, des bombardements de n'importe quelle ville dans le monde. Donc, il y a quelque chose... moi, je pense qu'au-delà des connotations très particulières et très précises qu'on a vécues en Colombie, il y a quelque chose de cette guerre humaine, de cette solitude humaine qui était très présente même là-bas. Et je pense que c'est pour ça aussi que le spectacle a eu un tel impact chez les gens. Parce que peut-être ils avaient peu vu une version où l'on parlait de ses préoccupations, de l'existence, mais... à travers un dramaturge comme Beckett, tellement lointain apparemment de la Colombie.
Et la confrontation avec l'Europe, alors, ça a donné aussi un choc intéressant. Tu as l'impression que les gens à Fribourg, à Nyon, à Lausanne, ont découvert quelque chose présenté par vous sous une autre, peut-être avec un autre œil, que le Beckett qu'ils connaissaient.
Oui, nous attendons encore avec beaucoup d'enthousiasme le Festival de la Bâtie, pour un peu arriver aux conclusions que nous avons un peu entamées à Fribourg. C'est-à-dire que on voit, on reconnaît de toute façon une sorte de vague qui s'instaure un peu au fil des années, avec le temps, de type de spectacle, si je peux dire, ou de façon de regarder du public. Et en ce moment, nous, on a trouvé, on était aussi très assez frappés. On a été en Avignon voir un peu le différents spectacles. Il y a peut-être par la situation qu'on vit en ce moment en Europe, où on était très frappés par le nombre de spectacles comiques, par la présence si forte de l'humour, mais de l'humour, hilarant, les sous-titres un peu des spectacles étaient, revenaient toujours sur ça, humour hilarant, éclat de rire, garanti.
On a besoin d'oublier et de parler d'autre chose que ces images dont tu parlais.
Ou d'une extrême légèreté. Alors que moi, j'aime beaucoup, mais parfois me frappait justement peut-être parce que nous, on vient d'une extrême gravité, n'est-ce pas? Donc il y a quelque chose là qui représente déjà une confrontation intéressante. C'est ce qu'on voit ici, ce qu'on a envie de voir et ce qu'on amène, n'est-ce pas, qui est pas du tout... Il y a beaucoup d'humour dans Beckett, il y a des gens qui rient beaucoup dans le spectacle, d'autres... mais c'est pas un humour, c'est l'humour de Beckett, n'est pas un humour à claquer de rire, à tomber
noir,
par terre, oui. C'est un humour très noir, très gris. Donc... peut-être en ce sens, oui, on amène quelque chose de un peu de nouveau grave avec bon, cet humour très particulier qu'il faut aimer. Et aussi, le spectacle s'est présenté donc, dans des lieux différents. Je pense qu'à Lausanne, là, tout récemment, au Festival de théâtre contemporain, la réception du spectacle était tout à fait différente de celle de Nyon ou de Fribourg. Les communautés aussi, je pense qu'elles ont, elles ont des approches différentes. Elles sont peut-être plus ou moins habituées à des spectacles à moins difficiles, plus difficiles, des formes contemporaines, des formes plus classiques. Donc à Lausanne, ça s'est très bien passé. Je pense qu'il y a eu une réception très très favorable du spectacle. Peut-être aussi parce qu'il y a une habitude aussi par ce festival d'art de théâtre contemporain de voir aussi de nouvelles dramaturgies ou de vieilles dramaturgies mais présentées de façon contemporaine. Je pense que ça sera pareil pour Genève où davantage on a encore plus de l'habitude de voir des spectacles contemporains.
Eh bien, Rolf, en tout cas, je te remercie de nous avoir fait découvrir de cette façon-là à la fois votre spectacle « De mortibus requiem » pour Samuel Beckett et puis aussi ce qui se passe en Colombie et votre démarche. Et nous encourageons bien sûr nos auditrices et nos auditeurs à venir voir votre spectacle. Il a lieu du vendredi 4 au dimanche 6 septembre au Théâtre de Saint-Gervais à Genève à 20h30 pour ce qui est des soirs de semaine et à 17h le dimanche. Et puis peut-être on rappelle que l'ensemble du Festival de la Bâtie se déroule jusqu'au dimanche 13 septembre. Donc, précipitez-vous pour acheter votre carte de festivalier au Festivalière si vous ne l'avez pas encore, pour aller découvrir les choses dont vous ne savez pas de quoi il s'agit, tout comme les grandes affiches. Ça vaut la peine. Alors, dépêchez-vous. Radio Zone Onde Femme vous propose des billets pour aller voir Des Mortibus Requiem pour Samuel Beckett, présenté par le MAPA Teatro de Colombie, comme vous venez de l'entendre. Des billets pour donc le vendredi 4 septembre, le samedi 5 et le dimanche 6. Alors n'hésitez pas, appelez-nous tout de suite maintenant en direct au 50 40 51 41. 023 si vous appelez depuis Genève, 0033 si vous appelez depuis le canton de Vaud. Je répète le numéro 50 40 51 41. Des billets pour venir voir Des Mortibus Requiem pour Samuel Beckett présenté par le MAPA Teatro. Thank you. vous faire écouter encore une interview que j'ai faite avec Jan Maruzic, qui est le créateur d'un nouveau spectacle de danse présenté par la compagnie Vertical Danse, qui s'appelle Ophélie, je ne sais plus le titre exact tout à coup. Une certaine Ophélie, voilà, oh là là. Et qui est présenté encore ce soir et demain soir à 20h30 à la salle Patigno à Genève. Malheureusement, je n'ai plus beaucoup le temps de vous faire entendre les propos de Jan Maruzic, mais vous pouvez entendre dans l'émission Mosaïque, notre émission culturelle sur Radio Zone vendredi, quelques extraits de cette interview. De même, Noémie Lapsaison, qui est par ailleurs la directrice artistique de la compagnie Vertical Danse et son âme, sa créatrice, présentera deux spectacles de ballet qu'elle avait déjà créés il y a quelque temps. Un ancien spectacle, Loussa, qu'elle interprète en compagnie d'Armand Deladoé, et un solo qu'elle a créé il y a une année environ, un instant sur un texte de Stieg Dagerman. Notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Et ces deux spectacles vous sont proposés dans un lieu complètement inhabituel et que vous allez découvrir, que nous propose souvent la bâtie, c'est les anciens ateliers d'imprimerie de la Tribune de Genève. Et ce sera dimanche 6 septembre à 21h30.